Psaume 23, si connu, et pourtant toutes les vies de ceux qui prétendent de croire en ce psaume ne sont pas affectées par ce psaume. Hein. On se sent bien quand on l'a lu, et après on l'oublie. Et donc le psaume 23, et je vais le relire. Alors c'est un cantique de David. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, David n'est pas encore roi, et il déclare à qui veut l'entendre, il dit « L'Éternel est mon berger ». Et parce qu'il est son berger, eh bien, il sait qu'il ne manquera de rien. Ça ne veut pas dire qu'il aura tout ce qu'il voudra. Hein? Il ne comprendra pas pourquoi ça doit durer 10 ans que Saül le court derrière et essaie de le tuer. C'est sûr qu'il aurait préféré, un peu comme Christ aurait préféré que la coupe passe, David aurait préféré que Saül cesse de le poursuivre. Mais il dit, mais je ne manquerai de rien, même dans ces circonstances-là. Et comment est-ce que l'Éternel prend soin de ses brebis? Eh bien, il nous le dit ici, dans ces deux versets, les versets 2 et 3. Il dit qu'il les fait reposer dans de verts pâturages et qu'il les dirige près des eaux paisibles. C'est le rêve d'une brebis. Mais aussi les brebis du Seigneur. Il dit aussi, et là, on a l'impression qu'il parle plus de moutons, là, il parle de personnes, hein, parce qu'il dit il restaure l'âme et il conduit dans les sentiers de la justice. Ça, ce n'est pas une question de brebis, c'est une question de personne. Hein. C'est le croyant, le fidèle. Et il restaure son âme et le conduit dans les sentiers de la justice. C'est intéressant de voir que le fait de restaurer l'âme et de conduire dans les sentiers de la justice, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. On aime bien, ah oui, j'aime me sentir bien. Mon âme, psychiquement, je veux être bien, tout ça. Et après, bon, après, laisse-moi tranquille. Hein. Ça y est, merci, je me sens bien. Le médecin, on lui paye. Ça y est, j'ai bien compris mon problème. Je m'en vais, je fais ce que je veux. Il dit, non, je restaure l'âme en vue de pouvoir te conduire dans les sentiers de la justice. C'est pas qu'il il dit, c'est pas juste une question, tu te sens bien. Et c'est bon, il a plus pour nous que cela. Hein. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand le Seigneur apporte du soulagement, apporte de la paix, apporte du réconfort, apporte une espérance et pime ce sentiment fort de sa présence avec moi en tout moment, eh bien c'est pour pouvoir me conduire. Parce que si on restaure l'âme, on dit voilà, ça y est, tu te sens mieux? Oui, je me sens mieux. Bon, ben alors au revoir. Eh bien, ce qui arrive, c'est que si on ne fait rien, eh bien, l'état de l'âme retourne vers son état premier, celui vers lequel il a tendance d'aller. Hein, chacun de nous, notre âme, il va vers certaines choses. Un, c'est vers la déprime, un autre, c'est ben, il essaye de l'activisme pour ne pas oublier, pour ne rien ressentir. On a toutes sortes de manières de traiter ça quand ça ne va pas bien à l'intérieur. Mais si je te restaure l'âme, mais si tu ne fais rien, ben tu retourneras là où tu as tendance d'aller. Mais il dit, mais si tu te laisses conduire dans les sentiers de la justice, tu te laisses conduire par moi, hein, tant que brebis, tu te laisses conduire par le berger. Eh bien, ça, c'est autre chose. Et là, c'est la victoire, c'est on avance. Hein. Et même si le chemin est difficile et rocailleux, il dit même plus tard, hein, verset 4, il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Hein, c'est parce qu'il dirige. Vous savez que Jésus est venu dans le monde justement parce qu'on avait un problème. Hein. Et dans le Ésaïe 53, verset 6, il dit « Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ». Je ne sais pas si on pourrait encore dire le passé, hein, parce qu'on regarde notre monde aujourd'hui, c'est encore vrai. Hein. Il y a tellement de voies, tellement des gens qui courent dans tous les sens, chacun cherche de trouver son chemin, et chacun suivait sa propre voie. Mais c'était le cas de chaque enfant de Dieu aussi, hein, quand le Seigneur est venu vers nous, eh bien, si on a levé les yeux vers lui et on s'est tourné vers lui, c'est justement parce qu'on était un peu perdu. Et il dit, eh bien, justement, Jésus s'est présenté en tant que bon berger parce qu'il a vu que les brebis, eh bien, n'avaient point de berger. Il nous dit, Jésus, un jour, avec ses disciples, il a dit, écoutez, on va aller se retirer là-bas, on va se reposer un petit peu. Et puis, alors, il part, ils prennent le bateau, ils vont vers une autre berge, ils arrivent là sur... Et j'ai visité cet endroit en Israël, c'est joli, c'est une belle pente là qui donne sur la mer, c'est vraiment agréable. Et c'est vers cet endroit-là qu'il se dirigeait. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive là, il trouve une foule qui l'attend. Et vous savez comment il décrit cette foule? Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est comme ça qu'il a vu. Les disciples, ils ont vu ça, ils ont dit, wow, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde? Jésus a regardé, il a dit, je vois des brebis languissantes, abattues, des brebis qui n'ont point de berger, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Et il a été ému de compassion. Le Seigneur souligne la triste réalité que personne ne s'occupe de ses brebis. Et cette condition, elle nous est décrite. Regardez avec moi dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Justement, il est en train de décrire Israël à une époque où ils se sont écartés loin de lui. Alors, Jérémie, chapitre 23, les versets 1 à 6. Je lis. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez point pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront, j'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Il dit, j'ai confié mes brebis à des bergers. Et les bergers dont il parle, ben, ce sont tous ceux qui étaient responsables pour le peuple, c'était... un peu les prophètes, les magistrats, les princes du pays, tous ceux qui devaient prendre soin de ce peuple. Il a dit, vous n'avez pas pris soin de ce peuple. Vous n'avez pas pris soin. Il dit, moi je reviendrai, je reprends mes brebis et je vais les diriger, je vais leur donner du repos. Et ce peuple qui souffre de la négligence de ceux à qui il avait été confié. Et Et Dieu dit, je les reprendrai. Dans Ézéchiel 34, et c'est un peu la même situation qu'il décrit, Ézéchiel 34, et ils sont contemporains, Ézéchiel 34, je lis aussi les versets, au verset 4, je vais commencer à lire au verset 2, donc 34, verset 2, il dit, fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur, dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est la description d'un peu... Bon, c'est vrai, dans ce contexte-là, il est en train de décrire le peuple d'Israël, et c'est encore vrai aujourd'hui, hein, c'est le peuple juif, il est dispersé de partout, et puis il est à la proie de toutes les bêtes, hein, ils en ont souffert, leur histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il dit... Parce que les responsables n'ont pas pris soin, parce qu'ils ne sont pas occupés de ces brebis, eh bien les voilà, dispersés, souffrantes et partout. Ce qui est arrivé à Israël, pour moi, aujourd'hui, c'est une illustration pour nous. Mais regardons la chrétienté en général, c'est pas mieux. Hein. Et ceux qui devaient enseigner, ceux qui devaient diriger, ceux qui sont considérés comme les responsables, eh bien, c'est pas glorieux. Et on voit une église de Jésus-Christ dont on a presque honte, hein, quand on regarde dans le chrétienté en général, on voit de tout et de n'importe quoi, et souvent c'est pas meilleur que ce qu'il y a dans le monde. On me l'a déjà dit, on m'a dit, ça sert à quoi d'être chrétien? C'est pareil. Et c'est pas pareil, mais bon, je comprends ce d'où il parle. Mais ça fait, si déjà nous ça nous dérange, mais le berger, le vrai berger, l'Éternel, eh bien lui il en est triste. Et là il dit, mais vous êtes nourris, hein, et ça se fait encore, hein, c'est, on saigne les brebis, les fidèles de l'Église, on les saigne, et puis le dirigeant, lui, il vit dans le confort et l'abondance, et eux, ils vivent comme ils peuvent. Hein, combien de fois, c'est triste ce qu'on voit, mais Dieu le voit, Dieu sait. Hein, et lui, il n'est pas comme ça. Il dit, et puis vous en avez fait la proie de tout le monde, et alors on a les jeunes qui grandissent dans les églises, il me dit, mais ça sert à quoi? Puis ils vont, ils claquent la porte, ils partent. Et puis il y a du monde, il y a des pertes terribles dans les églises. Mais parce que l'œuvre de Dieu, les bergers ne prennent pas soin de leurs brebis. Et le Seigneur le voit. Et la sentence, elle va venir là, au Ézéchiel 34. Il dit au verset 7 à 10, je lis donc la suite, Ézéchiel 34, verset 7, il dit, c'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et qu'ils ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis. et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ne seront plus pour eux. Ils ne seront plus pour eux une, elles ne seront plus pour eux une proie. Il dit, le Seigneur dit, moi je reprends. Hein, ça, j'ai confié et ils ont mal agi. Moi, mes brebis, je l'aime. Hein, sachez que... et ça rassure. Parce que Dieu se met plus en peine des brebis que de ceux qui devaient prendre soin des brebis. Hein. Souvent... Et vous savez, dans les scandales qu'on a eus dans les différents milieux religieux, on voit qu'ils ont toujours protégé le clergé et pas la victime. Ça, c'est chez les hommes. Dieu dit, moi, je protège la victime, moi, je protège la brebis, l'agneau, pas celui qui devait être le berger. Et qui n'a pas été. Hein, ça nous rassure, c'est toute une autre chose. Et c'est dommage que les hommes ont donné une si mauvaise image de Dieu. Parce que Dieu, c'est autrement. Et Dieu s'intéresse à ces brebis qui ont été la victime de ceux qui agissaient trop souvent au nom de Dieu. Et je continue à lire, donc au verset 11, et voilà ce que le Seigneur va faire. Donc Ézéchiel 34, verset 11, il dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans mon pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et tout, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans mon bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui les ferai paître. Mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Voilà. Bien sûr, d'un côté, ici, il y a ces prophéties concernant Israël, Israël qui est dispersé, et Dieu dit, un jour, je les ramènerai dans leur pays. Je ne vais pas rentrer trop dans la prophétie, tout ça, mais remarquez ici que c'est l'Éternel qui les ramène. Hein, ce n'est pas des pays occidentaux, ce n'est pas des puissances humaines, mais c'est l'Éternel lui-même qui les ramène. Hein, l'Israël d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'accomplissement de ceci. C'est peut-être en préparation d'eux, mais la réalité, c'est quand Dieu ramènera tout Israël de partout, il les ramènera dans un pays d'abondance. Mais ce que je veux voir ce matin, c'est l'esprit qu'a ce berger. Hein, c'est Dieu, hein, c'est sa personne, son caractère. C'est que lui, il n'oublie pas ses brebis. Et peu importe ce qui leur est arrivé, peu importe pourquoi cela leur est arrivé, hein, parce que souvent pour Israël, c'était leur faute. Hein, ils se sont détournés de Dieu et puis ils ont été après d'autres choses. Mais il dit non, moi je les ramènerai, peu importe pourquoi, mais je les ramènerai, et je les recevrai, et je prendrai soin d'eux. Et j'aime beaucoup ce verset 14, dit, je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Peu importe dans quel état elle se trouve, eh bien moi je lui apporterai ce dont je dois l'apporter, je vais la restaurer complètement. Hein, c'est ça, pour moi, c'est ça que j'aime. Ce qu'il va faire pour Israël, c'est une chose, mais moi j'ai le même Dieu. Hein, et nous, en tant que chrétiens, ben, nous avons ce Dieu. C'est ce Dieu-là. Hein, et vous savez, quand Jésus a dit « Je suis le bon berger », il est digne de le dire. Hein, il pouvait, cette appellation lui convient tout à fait. Ce n'était pas seulement une promesse en l'air, mais c'est vraiment, c'est l'Esprit. Hein, c'est l'esprit, ça, c'est l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est l'Esprit de Dieu révélé en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est ce que Dieu a pour nous. Hein. Et lui, il n'est pas là pour défendre le clergé de n'importe qui. Il est là pour ses brebis. Hein. Le berger est attaché à ses brebis et non pas les serviteurs qui devaient prendre soin des brebis. Et sachons faire la différence et sachons comprendre que peu importe le comportement des mercenaires, comprenons le cœur du berger. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit l'Éternel, le berger, veut conduire son troupeau dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il veut, et puis il a un chemin, il a un plan pour elle. Il sait où il veut les mener. Et le psalmiste, ici, dans le psaume, on revient au psaume 23, le psalmiste, eh bien, il insiste que l'Éternel est son berger, mais il insiste aussi sur le fait qu'il conduit, le berger conduit ses brebis. Il ne dit pas qu'il les pousse, il ne dit pas qu'il les traîne, il ne dit pas qu'il les presse, mais il les conduit. C'est-à-dire, il ne peut conduire que si elles suivent. Hein. Et c'est ce qui est, et pourquoi est-ce que le monde est dans l'état actuel, hein, on entend parler du monde, ben, c'est parce qu'il ne suit pas le berger, c'est tout. Hein. C'est pour ça que c'est le bazar là-dehors. Hein, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui prétendent pouvoir nous mener quelque part, mais en fait, ils veulent nous emmener là où ils veulent aller eux-mêmes. Hein. Ils ne cherchent pas notre bien. Mais vous savez, conduire, il y a un chemin. Et vous savez, un chemin, j'aime bien faire de la randonnée parce que ça me permet de découvrir des choses que d'autres ont déjà découvert. Hein, mais suivre un chemin, vous savez, quand on suit un chemin, ça permet de traverser monts et vallées, forêts et déserts. Tant que je fais confiance au chemin, c'est bon. On aime bien ces balises-là, ça nous rassure qu'on est bien sur le bon chemin. Et on sait que la confiance, ceux qui ont balisé ce chemin, cette piste, eh bien, ils savent où nous mènent, et on sait où on doit aller, et ça rassure. Et finalement, on peut marcher des heures, et vous savez, Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Ce chemin, il peut te mener à des endroits où tu n'as jamais pu imaginer, et découvrir des choses que tu n'aurais jamais trouvées tout seul. Des fois, de temps en temps, je m'amuse et je dis, je vais prendre un raccourci. C'est pas la même chose. Hein. Même si ça descend, c'est plus dur que suivre le chemin. Et il dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire la destinée, l'aboutissement, le point final, c'est le Père. Et il dit, tu suis le chemin, tu trouves le Père. Jésus dit, dans Jean 10, il dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. L'Éternel, David dit de l'Éternel, il dit, c'est mon berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a dit, je sais où il me conduit. J'ai déjà fait de la route avec lui, je sais où il me mène. Parfois le chemin est pentu, parfois il est rocailleux, parfois il passe par des belles prairies. Le chemin, il passe par toutes sortes de choses. Parfois il est dans l'ombre, parfois c'est au soleil. Mais il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est une autre vie. Hein, le chemin est peut-être étroit. Mais c'est le chemin de la justice. Et nous pouvons naviguer dans ce monde tourmenté et toutes sortes de choses. Mais tant qu'on reste sur le chemin, on ne craint rien. La question, mais comment est-ce qu'il conduit aujourd'hui? Il n'y a pas une ligne blanche qu'on suit. Est-ce qu'il y a une balise dans la vie chrétienne? Comment est-ce que Dieu nous conduit? Eh bien, il nous conduit déjà par sa parole. Hein, c'est l'enseignement. C'est pour ça qu'on a des Bibles ouvertes. Hein, parce qu'on en a assez d'entendre les paroles des hommes. Et on préfère entendre les paroles de Dieu. Hein, il dit, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit, ce qu'on vous a enseigné, ce qui est venu de la parole. À l'époque, ils n'avaient pas le texte écrit, donc c'était ce qu'ils avaient entendu. Éventuellement, ça a été rédigé pour nous. Hein, mais il dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, vous m'avez, eh bien, faites-le, pratiquez-le. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, je vais lire ce passage, 1 Corinthiens, chapitre 1, et versets 21 à 24. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Je ne fais pas de distinction. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 24. Il dit, oui, bon, il y a des gens qui cherchent aussi, ils cherchent cela, mais c'est la prédication de la croix. C'est à partir du moment que les gens commencent à être gênés par la croix, eh bien, ça y est, on a quitté la route. Hein, c'est plus le même message. C'est la prédication de la parole. Hein, c'est par la prédication de l'enseignement. Et c'est pour ça que nous donnons une grande importance à l'enseignement. Aussi, pour être conduit par le Seigneur, ce n'est pas seulement ce qui est enseigné, mais c'est aussi ce que je lis moi-même, et je dois le lire, hein, la lecture et la méditation de la parole. Et là, je lis juste quelques références, mais dans le psaume 119, versets 9 à 11, il nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc dans la lecture personnelle, la méditation de la parole, la mise en pratique, eh bien, il dit, c'est ça qui va m'empêcher de m'éloigner. Si je suis constamment et j'entends la voix, eh bien, je reste attaché au berger. Si je m'éloigne au point où je n'entends plus la voix, eh bien, là, je m'égare. Hein, vous savez, vous n'avez jamais perdu un enfant dans le centre commercial, hein, dans le supermarché. Il suffit qu'il arrive assez loin où, quand on appelle son nom, il n'entend plus. Et puis, ça y est, il est perdu. Hein, c'est jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui le trouve, et puis après, avec un haut-parleur, la maman du petit Philippe, hein, c'est comme ça que j'ai trouvé mon fils. Mais c'est comme ça, c'est facile. Hein. Il suffit qu'on s'éloigne assez. Hein. L'allée derrière, encore, on entend un peu, mais s'il y a deux allées entre eux, et bon, nos enfants, ils avaient les choses qui les intéressaient, puis maman, elle avait d'autres choses, et parfois, ils se sont perdus, ont perdu contact. Oui, mais ça nous arrive tout le temps, hein, dans la vie. Hein? Dieu, il s'intéresse à certaines choses, puis nous, on est distrait par autre chose, et tout d'un coup, on se trouve, on n'entend plus la voix. Il est où? Eh oui, c'est toi, tu es où? Hein? La brebis doit suivre le berger, pas le berger suivre la brebis. Il nous dit aussi dans le psaume 1, que vous connaissez certainement, hein, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ça, ça dégénère, là. Hein. D'abord, il marche avec. Après, il s'arrête, il discute, il passe du temps avec eux. Et après, et puis, ça y est, il est dans la cage d'escalier avec eux tous les soirs. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas celui qui dit, le pasteur, il va me demander si j'ai lu, alors je vais lire quelque chose. Non, ça, c'est qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. La fascination. Et qui la médite jour et nuit. Et pour illustrer, méditer, eh bien, pensez à la chèvre qui rumine. Elle a brouté, elle a avalé, ça veut dire un certain plaisir. Et après, elle va s'installer, et puis après, elle vide sa panse, et puis elle mâche, elle rumine, et puis ensuite, ça part dans l'estomac. Et en fait, il dit, écoute, faites ça avec la parole de Dieu. Vous l'entendez, et puis c'est déjà assez pas mal. Mais après, je prends du temps, et puis je reprends une pensée. Hein, peut-être pendant le pasteur, il a parlé pendant 3 quarts d'heure, mais après, il y a une pensée qui est restée. Et celle-là, je la garde, je vais la ruminer un peu plus tard. Je la garde, et après, je vais ruminer. Oh, toutes les implications de ça. Parce que si je l'ai entendue, c'est que c'était pour moi. Hein. Et donc, je la reprends, je rumine, je dis, Seigneur, ça, c'est pour moi, tu voulais me parler par ça. Je veux en tirer tout ce que je peux en tirer. Et là, je parce que là, si la chèvre ne ruminait pas, eh bien, elle mourrait de faim. C'est pas parce qu'elle avait brouté qu'elle vit. C'est parce qu'elle rumine qu'elle va vivre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas parce que j'ai entendu. Hein, j'étais présent à l'église quand il parlait. J'ai presque tout entendu, mais bon. Non. Mais après, je médite et je prends le temps de méditer. Vous savez, dans la lecture de la parole, vous savez, quand on arrive tout d'un coup, on dit ouais, je vais lire un petit coup. Vous savez, c'est difficile de tout d'un coup être dedans. Hein. On ne fait pas ça avec autre chose non plus. C'est difficile d'être dedans tout de suite. Et alors, si tout de suite je plonge la lecture de la parole, ben, les premiers 10 versets ou 20 versets, je ne suis pas encore dedans, donc je n'ai rien vu. Hein. Donc j'ai perdu la 10 versets qui aurait peut-être été bon, mais. C'est au bout de 10 versets, ça c'est dans les bonnes conditions, hein. Et je commence à lire. Alors certains le font, c'est d'abord de prendre une méditation, hein. Vous lisez la feuille de la bonne semence, ou vous avez un truc que vous lisez sur l'écran de votre ordinateur, il y a un petit quelque chose là, ça commence à vous mettre un peu dans le bain, comme on dit. Ou bien vous pouvez chanter un cantique, vous mettez un cantique, ça commence à mettre les pensées, on commence à orienter. Et après là, j'ouvre la parole, j'ai dit Dieu parle-moi. Hein? Et là je suis en train, là je me mets dans une situation où à l'aise. Hein, 10 fois par semaine, des gens disent, écoute, prends un thé avec le Seigneur, trouve un petit fauteuil dans un coin tranquille et avec ton café, ton thé ou ton chocolat ou ton croissant, ce qui chacun. Question, c'est l'idée de s'asseoir, de prendre un temps où on est reposé et puis on peut méditer là-dessus. Hein, le téléphone, il est éteint, il est en mode avion. Hein, et comme ça, il est là tranquille. Et puis, je suis avec le Seigneur. Seigneur, je suis avec toi. Hein, tu sais, combien de fois on voit, vous avez déjà vu ces photos, hein, les gens, 2 personnes à la table d'un café, ils sont là ensemble, normalement, ils sont ensemble. Mais chacun a son téléphone en train de discuter avec autre chose. Mais vous savez, on fait ça avec le Seigneur tout le temps aussi. Hein. Seigneur, je suis avec toi, mais mes pensées sont ailleurs. Mon corps est avec toi, mes pensées sont ailleurs. C'est pas du temps avec le Seigneur. Bon, en fait, lorsqu'on commence à réfléchir sérieusement, on passe très peu de temps avec le Seigneur. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a du mal à le suivre. Hein. 2 Timothée 3,16, il souligne l'importance de la parole. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout est là, mais bon, si je ne le lis pas, comment est-ce que je vais le devenir, hein? Donc, comment être conduit? D'abord, il y a la prédication de la parole qui est donnée. Il y a le temps de méditation de la parole, la lecture de la parole qu'on fait dans la prière. Hein, on lui donne le temps de nous parler. Et puis après, il y a l'obéissance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Et justement, Jésus a promis, il a dit, il va vous conduire. Hein, donc, quand il a parlé dans la chambre haute aux disciples, hein, dans Jean chapitre 16 et au verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Il dit, mais le Saint-Esprit va vous conduire. Il va vous aider à comprendre. Parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas avec l'intelligence, on comprend par l'Esprit. Et il dit, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Et là aussi, en même temps, dans ce verset-là, on voit justement tous les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et tout cela. Et il dit, parce qu'il dit, je ne peux pas tout vous expliquer ce soir. Donc l'Esprit de Dieu vous parlera, donnera à des hommes, il vous donnera les pensées et l'enseignement du Seigneur. Hein, c'est ça, c'est qu'il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aurait entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Apocalypse, par exemple. L'Apocalypse, il a promis, donc il y a les quatre évangiles, c'est la vie de Christ, mais après tout ce qui vient après, eh bien l'Esprit de Dieu, c'est ce que Jésus n'a pas pu dire aux disciples pendant qu'il était avec eux, donc il a par le biais de l'Esprit de Dieu, qui a inspiré la parole, et nous avons le reste des textes. Galates 5, versets 16 à 18 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il dit, alors vous êtes libre. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes libre. Et il nous dit aussi dans Galates 5, 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, vous avez reçu la vie nouvelle par l'Esprit, et bien maintenant, marchons aussi selon l'Esprit. Pour marcher selon, c'est-à-dire il faut se laisser conduire par lui. Hein. Si vous vivez par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Hein? Romains 8, 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Par la nouvelle naissance, on est enfant de Dieu. Mais des enfants responsables, ça c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, David disait, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Si David a écrit ça, c'est parce que tout seul, on ne va pas dans les sentiers de la justice. S'il me conduit là, c'est parce que si tu es sûr qu'on irait dans les sentiers de la justice, il n'y a pas besoin de conduire, il dit, bon, allez, marche. Mais nous, on fait le mauvais choix parce que trop souvent, on est influencé par des intérêts personnels, par des ambitions personnelles, par... Vous savez, on connaît assez notre monde et ce qui fait mouvoir le monde, c'est les intérêts personnels, la promotion de sa personne, bien les passions et les plaisirs. Hein, en général, c'est ça qui prend le dessus et qui finalement dirige notre vie quand on se laisse aller. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'être conduit par le berger. Les brebis, ils sont les lâches, elles font ce qu'elles ont envie de faire, ben, elles courent après ce brin d'herbe, après cette fleur, et puis après ceci, et puis elles courent derrière cette brebis-là, parce qu'elles voient courir une brebis, donc elles courent derrière, elles ne savent pas pourquoi. Hein, c'est quand même bête les brebis. Mais bon, les êtres humains, ce n'est pas plus intelligent. Hein, il y a tout d'un coup quelqu'un là, puis tout d'un coup, il y a une foule. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vous n'êtes jamais amusé avec quelqu'un qui commence à regarder vers le ciel et montrer du doigt. Tout d'un coup, vous avez toute la rue qui est en train de regarder. On est des moutons. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin de vous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors laissons-nous conduire par lui. Nous allons prendre quelques moments, je vous donne quelques moments de silence pour que vous puissiez lui dire déjà. Peut-être il vous a parlé de quelque chose. un domaine qui est négligé, ou bien s'il y a une parole de réconfort qui vous a réconforté, vous voulez lui dire merci, eh bien, dites-le dans le silence de votre cœur, puis après quoi je prierai.